Radio Progrès, la web radio du progrès en direct.
Et bah, on est de retour, comme je vous l'avais dit, sur notre instance Owncast de Radio Progrès. Parce que sur Radio Progrès, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour célébrer d'une certaine manière toute la galère que l'on a eue ces derniers temps. C'est sur Owncast, vous pouvez interagir directement avec les animateurs et aussi le technicien, puisque je suis technicien. Il est minuit écart passé et nous sommes dans une forme de libre antenne orientée autour de l'écologie. Et ce sera pas forcément un tour de table, mais ce sera plutôt une discussion spontanée sur le sujet de l'écologie. Voilà. Donc je ne présente plus Alice ni Brian qui sont nos animateurs. Et le sujet revient à la modération par Alice sur la question
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, heureuse d'être de retour. Merci beaucoup Pierrot, le super bricolo qui a réussi à réparer la radio. Merci beaucoup, c'est vrai que tu as été confronté à des défis techniques très complexes que tu as su relever avec brio. Et refaire fonctionner la radio. Voilà, donc de retour sur Radio Progrès. Et ben bravo, vraiment félicitations Pierre, et merci beaucoup, merci de nous recevoir. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs pour leur soutien.
Et oui, puis il faut dire que cette fois-ci, ce n'est pas Ventusio qui a mangé les câbles et encore moins les codes du serveur, et nous sommes bien présents. Donc le sujet, Alice, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, vu que c'est toi qui vas modérer l'ensemble pendant que moi je vais gérer la technique. Et je vous informe, chers auditeurs, que cette émission est retransmise sur le site en format podcast.
Oui, donc effectivement, durant ce laps de temps, on a quand même essayé justement de réfléchir à des sujets qui nous semblaient importants d'aborder. Et en lien aussi avec l'actualité, et donc notamment sur des sujets qui nous intéressent, Brian et moi, donc tout ce qui concerne la transition écologique, l'écologie. Et donc à cette occasion, nous sommes allés voir un film qui était proposé par un collectif d'activistes. Ce film, il s'appelle Décolonisons l'écologie. Voilà. Et c'est un film documentaire sur le scandale, notamment le scandale du chlordécone en Martinique.
Oui, c'est ça.
Et en Guadeloupe, mais c'était principalement en Martinique qu'il a été tourné, il me semble. Mais donc c'est voilà sur les Antilles, et principalement le reportage se déroule en Martinique. Et donc c'est sur le sujet du chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé en énorme quantité.
Oui.
Par les exploitants de la banane.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce pesticide et quelle est sa fonction, justement?
Alors, là, du coup, parce qu'on avait prévu de faire une émission un peu plus préparée, un petit peu plus aboutie. Et justement, là, ce soir, l'idée, c'était d'aborder de manière un peu plus générale les sujets et faire un petit peu un récap comme ça des sujets qu'on va aborder au cours des prochaines émissions, là, dans les prochaines semaines. C'est un pesticide.
Après, je suis là vraiment pour poser une question.
C'est un insecte qui est prédateur de la banane.
C'est un pesticide et qui sont très efficaces pour le beau banane. Mais par conséquent, derrière ça, les ouvriers, ils travaillent
sans protection.
Sans protection.
Il n'y avait pas de protection qui était fournie pour les ouvriers.
Plutôt à Guadeloupe ou en Martinique. sans protection depuis quelques années. Par conséquent, il avait le cancer après. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aussi depuis quelques années. Mais,
il y a eu beaucoup de décès, une augmentation, une explosion du taux de cancer des populations qui étaient exposées à ce pesticide, notamment du fait de leur travail dans les champs de bananes. Et ou de leur proximité avec ces zones où oui. les pesticides étaient épandus.
Et dans le documentaire aussi, on a vu beaucoup de cas juridiques avec sa famille qui prend compte de la situation parce que sa famille, toute la famille était touchée avec la problématique avec sa santé. C'est totalement illégal. J'étais choqué quand j'ai vu ce documentaire. Je sais, vous avez quelques...
Que moi aussi, ça a été vraiment une claque, une grosse gifle pour moi aussi, ce documentaire. Pourtant, j'étais quand même informée sur ce scandale et sur les conséquences du chlordécone. Mais vraiment, il est très, très intéressant. Il est très bien fait, ce documentaire. Oui. Je le recommande.
Oui.
Vraiment, et il permet effectivement de vraiment mettre en lumière le comportement complètement délinquant, illégal des patrons de ces entreprises criminelles.
Oui.
Voilà. Faut avoir peur de.
Oui, la problématique, c'est c'est vraiment le capitalisme et toute la problématique pour fournir les personnes en Europe avec le produit de terrain, mais c'est dans une échelle industrielle, il faut ouvrir les yeux.
Donc, pour revenir sur le chlordécone, donc commercialisé sous les noms de Kepon aux États-Unis, Merex dans les pays anglophones ou Kepon et Curlon en France, est un insecticide organochloré toxique, écotoxique et persistant. Donc c'est un pesticide qui cible principalement le charançon du bananier. Voilà.
D'accord.
Cosmopolites sordidus.
Voilà. Et justement.
Et d'autres insectes qui attaquent les bananiers, malgré son interdiction en France depuis 1990.
Oui, c'est ça.
Il a été encore utilisé après.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on se rend compte que d'un point de vue global sur la question, on va dire agricole, c'est pas parce qu'on a des interdits qui sont fixés que les entreprises les appliquent en fait.
Ah oui, donc en l'occurrence c'était interdit en 1990, et ils ont prolongé l'utilisation jusqu'à au moins 1993 dont on est.
Puis on se rend compte que d'une certaine manière. Plus globalement, l'agriculture, c'est plus ou moins géré par une mafia, quoi, parce que c'est exactement ça. Mm. Je sais pas ce que toi, t'en penses, Brian.
Par rapport à la situation, comme j'ai déjà expliqué, c'était choquant de voir la réalité. Quand je veux toutes les personnes, les entretiennes avec tous les gens, tous les ouvriers, tous les docteurs, tous les chercheurs, notamment Malcolm Ferdinand, il est un chercheur au CNRS et il écrit un livre aussi sur le sujet d'une écologie décoloniale.
Une écologie décoloniale.
Décoloniale.
Ouais,
c'est
une œuvre de Malcolm Ferdinand.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est une surprise parce que le pesticide était, comme Alice David déjà expliqué, était interdit en France en 1990, mais ça continue, il continue de.
Surtout, le problème, c'est qu'en fait, ils connaissaient déjà les risques et les dangers. Avant même l'interdiction,
ces
industriels-là, ils connaissent les risques et les dangers de leur choix, justement, de sans en avoir rien à faire des gens, de l'environnement, etc. Eux, c'est le fric, quoi, c'est le profit, s'en mettent un maximum plein les poches,
oui.
Et même au détriment des décisions de justice.
Oui.
Donc en l'occurrence, il y avait ce scandale,
oui,
encore qui se rajoute au scandale.
Et oui, exactement, tout à fait.
Donc des familles autochtones qui parviennent à prouver leur droit de propriété sur des terrains,
oui, c'est son,
qui ont été exploités justement par oui. Les béquets, par les groupes
oui.
Comme ça de l'industrie agroalimentaire. Malgré la décision de justice, eh ben, ils continuent d'exploiter ces terrains-là qui ne leur appartiennent pas. Ils vont quand même planter dessus.
Oui.
Ils font totalement fi justement des décisions de justice, donc ils se croient totalement au-dessus des lois.
Oui,
voilà. Ils ne respectent pas les lois, ils s'en moquent totalement, même quand il y a des décisions de justice, ils ne les respectent pas. Donc effectivement, oui, une sorte de mafia, des criminels, exactement, oui. Ouais, c'est le bon mot, c'est une mafia.
Dans l'île Martinique, depuis quelques siècles, vous avez oui, une histoire de colonialisme, esclavage et tout ça. Mais quand j'ai vu le documentaire, c'était choquant, le quantité de terres à Guadeloupe, c'est 90% de le terrain, c'est pour la croissance de bananes, c'est ça?
Ouais, bah, c'est principalement en Martinique, encore une fois,
oui, c'est
ce documentaire. Donc il est disponible hein, sur des plateformes, vous pouvez aller le voir. Moi je vous conseille vraiment, je vous recommande vivement d'aller voir ce film. Et donc c'est un documentaire qui a été réalisé par Canoubis, Annabelle et Jérémy. Voilà. Principalement en Martinique.
Moi, j'ai envie d'ajouter aussi, en fin de ce film, il touche sur le sujet de vers la direction de l'économie et solidarité et sociale. Et les gens ont envie de venir vers une direction de, avec le mot-clé décapitalisation. Pour être travailler comme le coopérative, les ouvriers, travailler dans l'objectif de travail local et plus les bananes qui sont équitables et sans pesticides et tout ça. Et voilà.
Et c'est vrai qu'on se rend compte que. Globalement, le sujet, il ouvre, on va dire, une fenêtre d'Overton, si je peux parler ainsi. C'est dans l'idée on se rend compte que ça ouvre plein de possibilités en termes d'analyse et d'argumentation, et c'est vraiment assez intéressant en fait. On voit bien que derrière, on va dire, une situation précise, ça nous permet d'avancer sur énormément de sujets, quoi, derrière, quoi. C'est, on va dire, la situation précise et l'arbre qui cache la forêt, en fait.
Ouais, parce que là, le reportage, il est principalement axé sur, effectivement, la Martinique, mais les conséquences du chlordécone et ces systèmes comme ça, justement, de... d'appropriation des terres, des ressources et d'exploitation
terrain,
des terres et des populations qui étaient obligées, contraintes de travailler justement pour les patrons béquets dans des conditions déplorables, donc sans aucune protection, etc., pour des salaires de misère. Et beaucoup, d'ailleurs, étaient escroqués, n'étaient probablement pas déclarés, etc., et donc privés de droits à la retraite, etc. Donc il y en a qui parviennent quand même à batailler, à faire respecter un petit peu leurs droits, notamment le droit à la retraite, mais c'est une retraite de misère, là. Notamment, il y avait le cas de... La dame qui témoignait dans le reportage, 200 euros de retraite, quoi, avec des problèmes de santé,
oui,
c'est catastrophique, quoi.
Exactement, tout à fait.
Oui, et justement, quelle solution on pourrait mettre en place?
Plus de contrôle déjà au niveau de tout ce qui est agroalimentaire. plus de contrôle, plus de rigueur, plus de transparence, un vrai contrôle citoyen avec des chercheurs, des laboratoires qui sont sous justement le contrôle et le regard des citoyens, avec la participation des citoyens aussi.
Exactement.
Voilà. Que tout ça, ça soit fait vraiment dans les règles de l'art. Et qu'on soit vraiment informé, parce que c'est de plus en plus qu'il y a des scandales, que ce soit sur l'eau, sur l'utilisation des pesticides, sur l'industrie agroalimentaire aussi, la maltraitance aussi des donc employés, des petits producteurs, des animaux aussi, dans le cas de, par exemple, quand ce sont des élevages d'animaux, etc.
Et oui,
il y a trop de scandales. Vrai. Et qui sont couverts en plus par les représentants de l'autorité publique qui ferment les yeux, etc., qui ne respectent pas les législations et ne sévissent pas, ne prennent pas de sanctions contre ces entreprises criminelles et ces patrons criminels.
Et oui, et c'est vrai que je pense que plus globalement, lorsqu'on parle d'agriculture, on est obligé de parler de la FNSEA. On peut pas, si on parle de FNSEA, on parle d'agriculture, parce que le système agricole est fait par un espèce de corporatisme,
voilà.
Et que la FNSEA n'est pas née.
Il y a une sorte de mainmise là actuellement de
c'est que la FNSEA, je termine.
Ouais.
C'est quand même le syndicat qui a plus de 95% des chambres agricoles. C'est le système FNSEA. Il a été basé de telle manière à ce que les entreprises de la FNSEA tournent en vase clos. Et on s'est rendu compte que le modèle de la FNSEA, qui est quand même un modèle hyper productiviste, hein, c'est ce qu'on appelle le capitalisme vert, hein, c'est-à-dire le capitalisme agricole à outrance, s'inscrit d'une certaine manière à dire, par exemple, vous avez trois entreprises, des multinationales, je dis au hasard le groupe Avril, et on se rend compte que par exemple, Avril détient quasiment la mainmise de la FNSEA. Et le ministre de l'Agriculture est souvent plus ou moins lié à la FNSEA. Et c'est-à-dire que on est arrivé dans le système agricole français que la politique agricole est assujettie à la volonté de la FNSEA. Et on se rend compte que la FNSEA, lorsqu'elle n'est pas contente, elle commet plein d'actes délictueux et parfois des crimes. On se rappelle que dans les années 90, ils ont quand même tué deux fonctionnaires parce qu'ils étaient fonctionnaires. Et que qu'aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont censés contrôler...
Les gens qui étaient membres du syndicat... faut être prudent quand même quand...
Bah oui, il y a...
Décoloniser, ça passe aussi par décoloniser le vocabulaire, décoloniser nos esprits aussi. Et donc quand tu disais justement qu'ils étaient comme ça intrinsèquement liés, bah justement moi je pense qu'il faut sortir de cette emprise, de cette prise d'otage de la FNSEA, qui justement prend en otage certains agriculteurs et agricultrices dans leur système toxique, etc. Mais c'est pas vraiment représentatif de la réalité du terrain et de la majorité des agriculteurs, parce que justement les petits agriculteurs, etc., producteurs bio, etc., eux ils sont pas du tout représentés par la FNSEA.
Ben oui.
Donc il y a d'autres syndicats dont notamment la Confédération Paysanne. Voilà, qui a beaucoup d'adhérents, notamment de petites exploitations.
Ils ont une ou deux chambres agricoles, quoi.
Oui, mais parce que c'est un système mafieux qui est en place. Et donc, comment on sort de cette prise d'otage, justement, de ces mafias agro-industrielles et qu'ont imposé, justement, leur syndicat qui va dans ce sens, justement, de nous mener dans le mur, droit dans le mur, clairement. Comment on sort de cette emprise et comment on soutient les petits syndicats, etc. Après, justement, on sait que effectivement, il y a énormément de tensions, de frictions entre des agriculteurs, des syndicats d'agriculteurs, etc. On sait qu'effectivement, ils font des actions très radicales, très, des actions coup de poing, en l'occurrence, murer des préfectures, décharger des tonnes de fumier, etc., et voire même en venir aux mains, etc. Arracher des grilles de la préfecture, ça s'est déjà fait dans des manifestations de la FNSEA, etc.
Oui, puis ils incendient même des bâtiments.
Et puis il y a aussi une radicalisation du discours, une violence du discours aussi avec des événements qu'on a vus récemment, là, contre des représentants aussi de l'État qui sont en mandat pour effectuer des contrôles, etc., notamment sur ce qui est le respect des lois environnementales, etc., ce qui concerne notamment la pollution.
Et c'est vrai
qu'il y a un narratif qui est de plus en plus agressif contre eux, notamment dans les cercles proches de la FNSEA.
Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que la FNSEA, oui, c'est une mafia, mais la réalité, c'est parce que qui est la Confédération paysanne, qui est le MODEF ou d'autres petits syndicats, c'est que le modèle construit par la FNSEA est totalement, est une prison pour ouais, les agriculteurs, disons-le clairement, en fait.
Et après, concernant justement, si tu veux aborder le sujet un peu justement, c'est toujours un peu délicat quand ça concerne le droit, des décisions de justice, des actes criminels, etc. Donc il y a effectivement des cas qu'on a vus, notamment d'agriculteurs qui ont tiré sur des représentants de l'État ou autres. Il y a aussi le cas très récent, dont là on n'a pas forcément non plus de pistes ou de, comment dire, de preuves pour lier cela à qui que ce soit. Pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte, etc. Mais je veux parler du meurtre du Corse Pierre de Via Campagnola, qui est l'équivalent de la Confédération paysanne en Corse, donc qui est un producteur d'huile essentielle, qui a été abattu de deux coups de fusil dans le dos, il me semble, en Corse. Donc on voit qu'il y a effectivement beaucoup de violence, et voire même des homicides qui concernent les agriculteurs. Et après aussi, par rapport à l'affaire dont tu parlais, moi, je connais pas forcément cette affaire, donc si tu veux l'aborder, mais...
Il y avait eu un article de Basta. De Basta.
D'accord.
Et c'est vrai que cette affaire a vraiment ressurgi dans les mémoires, parce que ces derniers temps, les fonctionnaires qui contrôlent justement les exploitations agricoles ont la même sensation d'être un haut niveau de dangerosité, voire un niveau de dangerosité plus élevé que c'était le cas. C'est-à-dire, il se pose la question jusqu'où peut aller la corporation, parce que, disons-le clairement, c'est quand on voit que ces derniers temps, les jeunes agriculteurs, qui est la version jeune qui est la branche jeune de la FNSEA, mettaient eux, ils appellent ça une caricature, mais ils appelaient au meurtre des écologistes, clairement, dans une vidéo, une vidéo où ils montraient l'assassinat de militants écologistes. On en arrive là, et c'est vrai que, dans le réglage des micros, On parlait de la politique américaine de Donald Trump, mais c'est du trumpisme en fait, c'est exactement ça, c'est le fait de dire « je suis pas d'accord avec vous, donc je vais vous assassiner », c'est exactement ça en fait. C'est une forme de totalitarisme.
Oui, bah alors ça existait aussi avant Trump, hein, malheureusement, mais oui, donc on voit qu'il y a effectivement, comment dire, de plus en plus de d'arrogance, clairement, d'arrogance et de violence, justement des voyous, hein, des délinquants qui justement se sont dans une forme de radicalisation. Et donc effectivement tirent sur des gens qui leur semblent représenter aller à l'encontre de leurs intérêts ou représenter effectivement entre guillemets une menace parce qu'ils viennent faire appliquer la loi en tant que représentants de l'État. Et en l'occurrence par exemple donc Pierre Alessandri dont j'avais parlé, qui avait lancé une alerte aussi, qui a été lanceur d'alerte. Donc y a beaucoup de lanceurs d'alerte dans des dossiers contre justement des géants de l'industrie agroalimentaire, des pollueurs qui sont victimes de menaces très graves et même de violences qui vont jusqu'à l'homicide malheureusement. Donc je suis pas étonnée. Après, je connaissais pas forcément ce dossier dont tu avais parlé. Donc je pense que ça montre qu'il faut justement revenir vers une forme de dialogue et de prévention et de discussion pour expliquer justement aux agriculteurs que c'est dans leur intérêt en fait. De respecter les lois environnementales, d'aller vers beaucoup moins d'utilisation de pesticides, etc. Parce que eux-mêmes, ce sont les premiers à être exposés aux substances. Donc, c'est ridicule de s'entêter à être dans le déni, d'être dans une forme de déni comme ça, et de se mettre des œillères et jusqu'à aller dans le mur et jusqu'à la catastrophe, quoi, clairement.
Et oui, et je sais pas ce que toi t'en penses, Brian, de toute la conversation que l'on a là.
Jusqu'à maintenant, mais les conversations juste avant, je connaissais pas beaucoup sur ces sujets, mais au début, on avait déjà discuté, oui, l'inégalité avec le genre mondial. Vous avez des ouvriers qui ramasser la banane et avec la moitié de paix, avec la liste de sa santé, sa vie et tout. Et en Europe, nous sommes pas courants de la situation avec le produit qui sont ils peuvent pas avec une façon qui sont c'est pas bien pour l'environnement, mais voilà. Et avec le pesticide chlordécone, il met beaucoup de tonnes, beaucoup de bidons de tonnes dans les petites îles d'antan. Mais les conséquences après, c'est l'environnement, le terrain, c'est beaucoup de pluie. Et c'est une catastrophe pour l'environnement, mais en plus, on a besoin de, comme j'ai déjà expliqué, vers la direction de l'ouvrier qui travaille comme les coopératives locales et pas dans une échelle industrielle qu'on avait déjà fait depuis quelques années et avec le grand propriétaire. Et voilà.
Et quand tu dis, voilà, justement, quelle conclusion tu en amènes?
Et toi, tu n'étais pas informé, Brian, des scandales concernant l'industrie agroalimentaire en France, par exemple,
non,
ce qui concerne par exemple les algues vertes? Oui. Les algues vertes en Bretagne, par exemple, parce qu'il y a eu un film aussi qui a été réalisé sur cette journaliste qui a lancé l'alerte, qui a été victime de menaces aussi, etc. Les algues vertes qui sont liées justement à l'industrie agroalimentaire, notamment les élevages porcins en Bretagne. Donc c'est pareil, en fait c'est lié à quoi ces pollutions? C'est lié au rejet de tous les résidus de ces industries-là, qui pour eux en fait c'est pour maximiser leur profit, parce que du coup ils ne s'occupent pas de traiter les déchets qui sont produits, en fait c'est tout pour le fric dans leur poche, quoi.
Oui, c'est une sujet, je ne connaissais pas beaucoup sur les sujet, mais merci pour le...
Et donc ça a créé une pollution... énorme, ahurissante, catastrophique en Bretagne.
Ouais, c'est pas bien. Ça.
Et c'est pire que pas bien, c'est criminel. Et donc il faut qu'il soit sanctionné, il faut qu'il répare, quoi. Il faut qu'il restaure ce qu'ils ont dégradé. Voilà. De l'argent, il y en a quand c'est pour investir dans des trucs. Dans la guerre, là, ils ont de l'argent, bizarrement. Hein? Là, vas-y, on met les pieds dans le plat. N'ayons pas peur des mots. Quand c'est pour les bombes, les guerres, les tanks, les avions, les obus, là, il y en a de l'argent, il y a des milliards, là. Bizarrement. Mais quand c'est pour les retraites, pour l'hôpital, mais de toute façon, il y a de l'argent pour les retraites, en plus, donc c'est un non-sujet.
C'est toujours comme
ça. C'est juste pour sanctionner toujours plus les travailleuses et les travailleurs, c'est tout, les exploiter toujours plus. Voilà. Le patronat, c'est ça. Comment ils vont pouvoir comme ça nous essorer toujours plus? Vous avez une espérance de vie qui se rallonge un petit peu. Allez, tu vas aller bosser encore un peu plus longtemps. Du coup, ça a l'effet inverse. Les gens qui, justement, ne peuvent pas partir en retraite encore à peu près en bonne santé, ils partent en mauvais état, ils partent abîmés. Il y en a beaucoup qui, malheureusement aussi, décèdent avant de pouvoir partir en retraite.
Oui.
Voilà.
C'est
à cause des conditions de travail déplorables.
Et du coup, je vous propose qu'on fasse une petite coupure. On s'écoute Mr. Factor pour le morceau Pop Music. Everybody talk about pop music. Pop. Et oui, on reprend l'antenne, il est minuit 55, c'est-à-dire quasiment une heure du matin. Nous venons de mettre en ligne le podcast de l'émission On sort ce soir. Et là, c'est plus une version antenne libre. Voilà, je cherchais mon mot sur la question de l'écologie et on parlait notamment de l'agriculture au travers de la FNSEA. Et du coup, on avait parlé de pas mal de choses et c'est vrai que cela fait déjà 40 minutes que nous sommes en direct. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est déjà pas mal pour une reprise en douceur sur l'antenne de Radio Progrès. Et toi, Brian, qu'est-ce que tu as envie de dire de choses supplémentaires sur cette question? Ou qu'est-ce que tu veux rajouter en
fait? Et sur le sujet de l'écologie
Sujet de l'industrie agroalimentaire.
Oui, mais
oui, c'est...
Et des syndicats de l'industrie agroalimentaire. Et du film qu'on avait vu, en fait, un peu comment faire un peu une conclusion, si tu veux, de tout ça, wrap-up.
Après, c'est vrai qu'au niveau de la conclusion... On a encore le temps, hein. c'est l'idée, c'est d'enchaîner, de poursuivre et d'ouvrir finalement une autre partie pour continuer cette émission.
Oui,
parce qu'on est bien.
La problématique, c'est la population mondiale, ça grandit et ça explose, mais pour fond de...
Non, ça n'explose pas, ce n'est pas une bombe. Hein.
Non. Oui, mais les gens, ils font des enfants. Mais Macron, il disait qu'il fallait faire un réarmement démographique en France. Donc bon, je pense pas qu'il y ait une explosion des naissances à ce point-là en France. Si Macron dit qu'il veut réarmer taux de naissance. Donc non, moi, je pense pas que ce soit à cause du taux de population. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Justement, il faut pas rentrer dans ce narratif. On a parlé de décoloniser l'écologie, décoloniser notre vocabulaire, décoloniser notre narratif. Ici, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est plus du fait des choix des gros industriels, des multinationales, des choix aussi des gouvernements aussi qui se font graisser la patte par ces gros groupes industriels, criminels, mafieux, qui vont sûrement aussi peut-être leur faire du chantage à ceux qui ne cèdent pas aux pressions, hein, comme c'est le cas auprès des lanceurs d'alerte, etc. Donc, c'est plus de leur fait à eux qu'on est dans une situation où il y a énormément de pollution, où il y a une dégradation des sols, où il y a un dérèglement climatique qui est fait par les activités humaines.
Oui.
Mais ce n'est pas le petit citoyen ou la petite citoyenne lambda qui est le plus responsable de tout ça. Certes, on peut avoir un impact par nos choix de vie, par nos choix de consommation, etc., ce qu'on va acheter ou pas, ce qu'on va manger ou pas. Etc., où on va placer notre argent ou pas, quelle assurance on va prendre ou pas, réfléchir à tout ça. Certes, on peut avoir un impact, et aussi quelle politique, parce que voilà, il faut arrêter aussi de personnifier, quelle politique, quel programme je vais choisir, voilà, parce que aussi c'est important d'arrêter d'idéaliser les représentants politiques. Il faut sortir de ça aussi, il faut décoloniser ça aussi. C'est le projet, le programme, le cap, voilà, vers où on veut aller. Est-ce qu'on veut aller justement continuer ces politiques-là, des grosses entreprises qui polluent en connaissance de cause? Ils savent très bien les répercussions,
ah oui,
etc.
Vrai.
Ils savent qu'ils polluent. Il y a déjà des alertes, il y a des conséquences qui sont visibles, etc., sur les écosystèmes. Donc ça suffit, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils réparent. Et il faut qu'ils retraitent les déchets qu'ils produisent, et puis changer aussi ce productivisme, parce qu'il y a énormément de gaspillage aussi de ressources, etc. C'est des conditions qui sont une aberration aussi, aussi bien pour les travailleuses et travailleurs que pour les animaux dans certaines exploitations, pour les habitants et les habitantes des environs aussi, pour les communes environnantes et pour les autres agriculteurs et agricultrices aussi, qui, eux et elles, veulent faire du bio, par exemple.
Et oui, et voilà. Là où c'était intéressant, c'est que tu mettais l'opposition entre l'individualisme et le collectivisme. Et c'est vrai que partir d'une problématique en se disant c'est une problématique individuelle sur un problème structurel. J'avoue que
d'un voilà, parce que c'est, si tout le monde veut vivre comme un Américain, c'est sûr que ça ne va pas le faire.
Je vais terminer ce que je dis. C'est la question individualiste, on va dire, est exposée dans l'hyper-individualisme, parce qu'on en est là, en fait. On a toujours tendance à nous faire croire que des problèmes, on va dire, macro, c'est-à-dire des problèmes de grande échelle, se résolvent par une analyse de petite échelle. Et c'est vrai que je pense, avec pas mal de recul, le néolibéralisme est incompatible à résoudre les problèmes de grande échelle. Et je vais m'expliquer plus en détail. C'est que en économie, il y a deux types d'économie. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. Oui. C'est-à-dire l'économie au niveau des individus et des entreprises et l'économie à l'échelle d'un État. Je résume grosso modo. Et le problème, c'est qu'on a plus ou moins éradiqué la macroéconomie. C'est-à-dire que le fait de se positionner sur des analyses structurelles de grand ordre n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Et de telle manière, le réflexe qui est fait par les libéraux et les conservateurs, c'est toujours sur le repli sur soi et sur l'individu. Et en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et on se rend compte que les bases de la macroéconomie ne sont même pas gérées, en fait. Et on voit par exemple en France, hein, forcément, mais encore plus façon plus magistrale. Aux États-Unis d'Amérique, on est face à des amateurs, en fait. Ils ont élu des amateurs, des gens qui n'ont jamais fait d'économie de leur vie, et ils se sont basés une théorie qui confrontait à la réalité n'existe pas, en fait. C'est ça le problème. C'est ils ont idéalisé quelque chose qui n'existe pas dans les faits. Et leur idéal, en fait, elle génère l'antagonisme de ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que par exemple, je lisais un article l'autre jour, c'était des petits commerçants américains. Ils disaient, on commence à voir notre chiffre d'affaires qui baisse. Et moi j'avais envie de dire, mais c'est normal, en fait. Quand les dépenses baissent, l'activité baisse, donc forcément, en conclusion, le petit commerce, s'il y a moins d'argent disponible, il y a moins d'argent qui rentre. Et on se rend compte que l'idéal libertarienne et ultralibéral, en fait, c'est un gros fake de bout en bout. C'est des gens qui sur des tableaux font parfois des équations avec ce que je veux dire, plein de supposés pour que ça fonctionne, parce que c'est un peu leur objectif. Mais sauf que lorsqu'on va dire leurs hypothèses de départ, en fait, elles sont pas valables. Et justement, parce qu'elles sont pas valables, ça rentre aussi dans l'idée que l'économie, c'est peut-être quelque chose d'assez rigide et barbare, mais ça reste une science sociale. Et qu'est-ce qu'ils attaquent en permanence? Les sciences sociales. Voilà. Je vais te laisser, Brian, tu voulais intervenir sur ce que je disais. Et ce que je voulais dire par là, c'est on ne résout pas des problèmes structurels par des réflexes individualistes.
Je sais pas, mais je suis pas un expert sur ce sujet, mais en fait, pour moi, c'est intéressant. En France, vous avez beaucoup de personnes politiques qui sont à gauche et même environmentalistes et tout ça. Et ça va venir immédiatement. et moitié en moitié, année en année, on peut essayer de faire la façon d'agriculture plutôt écologique, moins industrielle, avec une façon avec les pesticides et tout ça. Mais ça va arriver, mais si on peut comprendre le système de comment ça s'appelle, le proprietorship dans quelques pays, même en Écosse par exemple, jusqu'à maintenant, le plus riche, il est propriétaire de la grande partie de la terre là-bas. Mais si vous avez de plus en plus dans quelques pays, qui avaient de nouveaux propriétaires et qui achètent un état et ils laissent la population dans cette région de commencer de faire rewilding, ça s'appelle en Écosse, et un système d'agriculture qui sont pour tout le monde, qui sont c'est bien pour l'environnement et en plus c'est bien pour les gens. Voilà. Vous avez autre chose à y jeter, Alice?
Après, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle qui est un renouvellement de la population aussi. Parce que, effectivement, il faut des jeunes agriculteurs et agricultrices qui produisent des bons légumes et des bons fruits, et puis des jeunes aussi qui cultivent leur potager, comme toi par exemple, ce que tu fais en permaculture aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, déjà il y a des peuples qui sont autosuffisants, etc., qui gèrent leurs ressources de manière plutôt raisonnée et résiliente, etc. C'est clair que c'est pas toute la population mondiale qui vit comme des Occidentaux, comme des Européens, comme des Américains, et heureusement, il y a des peuples qui sont beaucoup plus résilients, autonomes, beaucoup plus économes aussi, qui sont déjà dans une forme de, enfin, qui n'ont pas besoin de faire une transition, justement parce qu'ils sont déjà dans des modes de vie qui sont déjà en harmonie quelque part avec leur environnement, avec leur mode d'agriculture, voilà, au niveau de ces communautés ou des communautés de chasseurs, cueilleurs, etc., comme il y a encore des communautés qui vivent comme ça. Des ressources de la nature, sans forcément avoir industrialisé une forme d'agriculture ou d'élevage, mais qui...
Je pense aussi la problématique avec notre climat, qui en ce moment est un peu erratique, et la problématique, c'est par exemple, vous avez des surcharges de production de certains produits. Plutôt, je vais montrer un exemple des pommes.
La surproduction.
Surproduction, oui. Des pommes, par exemple. Mais dans quelques années, par exemple, le raisin, ça ne pousse pas bien pour le vin. Mais vous avez des agriculteurs qui essaient de plus autres produits pour le.
Alors ça, les surplus, c'est pareil, justement, ça fait partie parce que c'est des quotas, selon quels critères, etc. Voilà, c'est des politiques aussi qui sont imposées par ce système et par ces syndicats hyper productivistes et qui contribuent aussi, encore une fois, au gaspillage, justement, parce que aussi il y a ces gros groupes commerciaux qui justement ne payent pas suffisamment les producteurs pour augmenter toujours plus leurs bénéfices, qui leur imposent des quotas, qui leur imposent aussi une esthétique des produits, des fruits et légumes. Voilà, il faut pas des fruits et légumes qui sortent du calibrage, voilà, qu'il faut qu'ils soient calibrés au millimètre, etc. Qui veulent pas les fruits et légumes qu'ont le moindre petit défaut selon leurs critères. Parfois, c'est parce que ce sont des beaux fruits et légumes, en l'occurrence, qui sont un peu plus gros que le calibrage qui est imposé. Et donc, c'est ces quotas-là, ces normes-là qui sont imposées, entre guillemets, ces normes, ces critères qui sont imposés justement par les gros groupes de l'industrie agroalimentaire, qui imposent des contraintes justement aux agriculteurs et aux agricultrices, qui vont à l'encontre du bon sens, quoi. Parce que je pense que si y a une belle production, il faut s'en réjouir. Et au lieu de jeter des produits, des fruits et légumes qui sont consommables, etc., il faut trouver un système pour éventuellement même faire des dons, quoi, je veux dire, aux banques alimentaires, etc. En faire de la compote, confiture, etc.
Et récemment, vous avez je pense que c'est génial, et vous avez des gens qui, par exemple, le pain, et faire les cookies après avec le pain, et pour éviter les gaspillages. C'est le pain en boulangerie.
Ou du pain perdu.
Le pain perdu, c'est bien ça. Mais les gaspillages, c'est incroyable. Et plutôt avec les légumes et les fruits et tout ça.
Et c'est catastrophique, surtout que quand on sait qu'il y a des personnes qui manquent de certains produits, il y a des personnes qui meurent de faim, etc. Moi, je trouve ça totalement aberrant et indécent de jeter de la nourriture, quoi. De jeter des aliments, alors que il y a de plus en plus de problèmes de malnutrition, même ici en France.
Oui.
Le scorbut qui revient, etc. Est-ce que dans ce cas-là, les producteurs, ils peuvent pas donner leurs pommes pour la cantine du coin, et puis voilà, les enfants, ils ont goûté des pommes, de la tarte aux pommes, etc.
Dans quelques villes aussi en France, récemment, vous avez certaines collectifs qui poussent les pommiers, des poiriers, tout ça
dans des vergers,
dans le parc local, et après les gens peuvent ramasser avec liberté,
une sorte de verger collectif, quoi.
Oui, c'est ça, mais ça va venir,
des jardins potagers.
Là, en l'occurrence, c'est des arbres fruitiers. On n'est pas encore tout à fait dans l'aboutissement du potager.
Je voulais dire des jardins ouvriers,
un jardin partagé aussi. Ouais, les jardins ouvriers, c'était déjà un peu ce concept-là. C'était que justement les ouvriers ils puissent cultiver un potager et puis leur permettre d'être au maximum autosuffisant au niveau alimentaire.
Un jardin collectif, c'est une idée très très géniale, parce que vous avez des connaissances collectives aussi. Vous avez des personnes qui peut sensibiliser les autres personnes, il peut encourager
leurs connaissances,
son expertise pour éviter les maladies de plantes et pour éviter la nécessité de mettre les pesticides partout. Nous avons des autres façons, tu peux mettre les plantes pour attirer les abeilles, tu peux mettre certaines plantes pour virer les insectes qui sont qui ont envie de manger les légumes, tu sais. C'est important d'avoir des connaissances de améliorer la situation avec la croissance de nourriture pour tout le monde. Voilà.
Et oui, je pense que c'est une belle conclusion. Ça fait quasiment exactement une heure que nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Brogas. Donc c'était une reprise puisque il est 1h15 du matin et je pense qu'on a parlé de choses vachement intéressantes mine de rien. Et je pense qu'on
pour conclure, ça serait bien de que tu nous dises, toi, en fait, ton expérience, juste en tant que conclusion, pour toi, comment tu mets en pratique tout ça. Donc, toi, tu as un potager en permaculture.
Oui.
Et donc, c'est ce que tu fais. Tu essayes de rencontrer des personnes qui ont des connaissances, tu échanges avec ces personnes-là sur le potager, les légumes. Donc, la permaculture, le principe, justement, c'est d'essayer de combiner les différentes espèces. Différentes plantes, différents légumes, et essayer d'optimiser ces co-cultures en fait.
Oui, oui. Quelques années avant, j'étais sensibilisé avec une monsieur quand je devais partir dans le département, quand je dans le cours d'anglais avec Laurent, il était une personne qui suit son surtout dans son jardin, la façon de permaculture. J'ai jamais entendu de cette façon de potager, mais c'est très très intéressant. Et moi, j'y suis depuis presque déjà 10 ans. Et c'est j'adore parce que j'ai fait le potage levé. Et au niveau de l'ergonomie, c'est bien pour travailler sur cette potager, cette carré. Et en plus, j'ai découvert vis-à-vis certains légumes qui poussent bien. Si tu fais une bonne façon de faire le paillage et tout ça, pour éviter la nécessité d'arroser le jardin tous les matins, tous les soirs, l'été. Moi, j'ai un souvenir, l'année dernière, j'ai arrosé le jardin 2 fois par semaine. Et l'été était pas mal l'année dernière, mais plus un peu en plus l'année dernière, mais au même, c'était pas nécessaire d'arroser mon jardin tous les jours avec cette façon de paillage et je mélange tout sur le terrain.
Et c'est super que tu fasses cette transition vers l'irrigation, l'arrosage et donc la question de l'eau, parce que ça va être le sujet de notre prochaine émission.
Oui.
La question de l'eau.
Oui.
Et l'accaparement des ressources en eau, notamment par les gros groupes industriels ou certains gros exploitants qui sont souvent justement en lien aussi avec la FNSEA et d'autres.
C'est intéressant parce qu'on avait parlé tout à l'heure sur le sujet de green roofing. C'est faire un jardin sur un toit, pas un toit comme ça, mais un toit plutôt. Voilà.
Ouais, c'est un sujet qu'on pourra aborder aussi. Vrai qu'il y a eu des avancées dans ce domaine-là au niveau de la législation et au niveau justement de la réalisation de bâtiments avec des toits végétaux.
C'est ça.
Et oui, et du coup, c'est le moment de se quitter. On va s'écouter, pour se quitter, un morceau de musique, forcément, avec Challenge, Baby is Gong. Et entre-temps, on coupe l'antenne, on coupe l'enregistrement, je voulais dire, afin de que cette
à
émission...
À très bientôt sur Radio Progrès, avec Alice, Pierrot et Brian.
Afin que cette émission soit disponible sous format podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine.
Au revoir.